Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du Dieu souverain qui distribue vraiment selon son gré les dons dans la diversité. Et là, on va prendre comme passage 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Et d'abord, ce qu'on va voir, c'est que ce Dieu souverain, en fait, il est le Dieu qui est seul, hein, qui se manifeste en trois personnes, donc le Dieu trinitaire. Donc, et c'est lui, justement, qui distribue ses dons dans la diversité. Alors, on est en 1 Corinthiens, chapitre 12. Parlons justement de ce Dieu trinitaire, Dieu de la Trinité. Verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc le mot qu'on retient, c'est diversité. Mais notez bien comment c'est écrit. Diversité, oui, mais un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Et c'est ainsi justement que le Dieu du Nouveau Testament se manifeste. Enfin, et même dans l'Ancien Testament aussi, il y a plein de preuves où on peut justement parler de la Trinité. C'est pour cela que c'est la doctrine de l'Église chrétienne depuis sa naissance. En ce qui concerne l'Esprit, l'Esprit Saint, il dit qu'il y a diversité de dons. Et ce mot pour don est très intéressant. En fait, ça revient à un autre mot très clair, un mot de grâce. Un don, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. Je pense qu'on est tous conscients de cela. Sinon, ce n'est pas un don, hein. C'est une rémunération. C'est une récompense. Non, là, c'est un don. Et c'est l'esprit, donc, qui fait cela. L'esprit distribue ce qui ne se mérite pas comme produit de la grâce. Et pourquoi est-ce que cette faveur est si richement déversée sur nous? Parce qu'il y avait un Seigneur qui n'est pas venu pour être servi, mais Jésus-Christ est venu sur terre pour servir et pour donner sa vie en rançon pour les autres. Voilà. Donc, dans ce que l'Église doit ressembler, il y a un part donc de cette grâce, il n'y a rien qu'on mérite, mais il y a quelque chose qui ressemble à notre Seigneur, parce que c'est lui, en fait, qui a mis les choses en place. C'est lui qui a donné sa vie et c'est lui qui nous a montré un véritable service. Un service pour le Seigneur ne peut pas être quelque chose qui est de notre propre initiative, mais c'est toujours, selon lui, dirigé par lui, parce que c'est lui le souverain. Donc, le Seigneur, dans sa diversité il y a des diversités de services, mais un seul Seigneur. Comme l'Esprit Saint glorifie Jésus, on ne s'étonne pas non plus que les dons qu'il distribue souverainement, que ça soit des services en réalité, pour que l'Église se mette à servir les uns les autres et pas s'imposer les uns sur les autres. Bon, malheureusement, l'Église, historiquement, n'a pas fait ça. Même aujourd'hui, on peut voir où ça dévie. Mais comme Jésus est le serviteur roi qui s'est donné lui-même pour nous racheter de la mort, de la même manière, nous ressemblons cette qualité de vie. Pas parce que ça vient de nous, parce que nous sommes quelqu'un, mais tout simplement parce que nous avons reçu de lui un don. Et donc, c'est le Père qui, dans la diversité des opérations, est au-dessus de tout. C'est lui qui opère tout en nous tous. Tout vient de lui. Il est la source de tout. Et donc, c'est encourageant parce que ce verset nous renvoie vers sa souveraineté. Ce n'est pas une compétition, mais c'est plutôt une, si je peux dire, une convivialité, c'est une cohésion, c'est une coopération, une communauté. Ça doit être plus comme ça. Pas d'esprit de compétition parce que Jésus-Christ est mort pour nous tous, mais plutôt que chacun est de lui-même. Ce n'est pas non plus du communisme où tout est forcé à mettre sur la table. Ce n'est pas non plus du capitalisme non plus. C'est tout ce qui est absolument différent puisque c'est régi par un roi, Dieu, donc, qui est souverain. Et bien nous, à l'image de Christ, dans les diversités de ce qu'il nous donne, nous servons à son image. Mais en réalité, ce que dit la Bible, c'est que c'est le Père qui opère tout en nous tous. En réalité, la Trinité, c'est un seul Dieu. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est peut-être mieux de l'imaginer un peu comme, quelque part, comme une danse. Il y a une unité parfaite. Mais, bon, danse, c'est normalement deux personnes. Là, on parle de trois. Bon, qu'importe. Mais une danse qui traverse rythmiquement des pas dans la musique. Il n'y a jamais de faux pas. Il y a toujours complicité, il y a toujours harmonie et tout se passe merveilleusement, chacun dans son rôle pour, en fait, pour le bénéfice de tous. Et donc, l'Église doit refléter cette même danse. Et donc, la danse que fait l'Église, chacun dans sa propre don, donc venir de lui, parce qu'il est souverain, c'est le Père qui opère tout en tous. Deuxièmement, c'est l'exercice des dons qui nous fait connaître ce Dieu trinitaire. En fait, la façon que j'utilise mes dons devrait vous enseigner sur les qualités de Dieu, comme la manière dont vous exercez vos dons doit en réalité m'apprendre aussi plus sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tous les dons et vous non plus. Mais c'est la globalité de tout. Lorsque tout est mis ensemble dans cette harmonie, cette danse dont je parle, ça permet à ce que nous puissions tous connaître Dieu davantage. Parce que c'est le Père qui opère tout en tous. Donc, verset 7, nous lisons « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, c'est pour l'utilité de l'Église, c'est pour l'unité. Voyez, les dons de l'Esprit ne doivent jamais être une source de division, bien que nous constatons parfois dans notre milieu évangélique. C'est exactement ça. Ceux qui croient, par exemple, dans le parler en langue, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient que le Saint-Esprit continue son œuvre jusqu'à aujourd'hui et ceux qui le font, qui ne croient pas. Enfin, des divisions, il y en a. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous, malheureusement, humains. Mais ce n'est pas juste parce qu'on est humain, parce qu'on est pécheur, qu'on doit accepter les choses et puis s'ancrer dans nos petites divisions. Non. On a un meilleur appel pour nous et on doit garder justement le but devant nous, l'objectif. Littéralement, les dons sont pour nous unir et pour la bénéfice commune. La manifestation de l'Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en nous par son action, par une parole qu'on dit. Et puisque c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout cela, tout ce qui fait ou ce qui est fait par l'Esprit devrait avoir l'empreinte du Dieu vivant. Et quelle est cette empreinte? amour. Parce que Dieu est amour. C'est pour l'unité de l'Église, mais deuxièmement, c'est selon la volonté de Dieu. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et voilà ce qui est capital dans tout cela. C'est Dieu qui est souverain. C'est l'esprit qui est chargé de distribuer ou orchestrer les dons ou les manifestations selon sa volonté. Parce que il sait ce qui est de mieux. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés. Donc, il ne va pas donner, par exemple, un don à quelqu'un qui est tout à fait l'incohérence avec la personne et sa personnalité et tout. Pourtant, il peut, et souvent, il équipe les gens d'une manière à ce que c'est surprenant, parce que c'est surnaturel, parce que ça vient de lui et pas de nous. Ce n'est pas incohérent, mais ça peut être surprenant. Et donc, avec ça en tête, on va maintenant aborder la liste là que nous avons pour aujourd'hui. C'est une liste de divers dons. Et là, c'est à la réflexion de Dieu. Je ne dirais pas qu'il est divers, non, il est un. Il se manifeste en trois personnes, mais il est vaste. Beaucoup plus vaste qu'un homme, une femme puisse contenir. Hein. Il est vaste. Et nous pouvons donc connaître par nous-mêmes, par l'exercice de nos dons et par l'exercice des autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Et tout ça doit inspirer en nous cette idée que nous avons vraiment besoin des uns des autres, que on ne peut pas tout faire par nous-mêmes. Et chaque fois que, quelque part, on le fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ça, c'est peut-être un autre sujet pour notre temps, mais pour aujourd'hui, il suffit de dire, nous avons besoin des uns des autres. Alors, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, il y en a 8. Alors, le premier, on va parler de la parole de sagesse. Alors, très important, hein? Nous lisons un verset dans un livre. Et ce livre de 1 Corinthiens commence justement par une plainte de Paul contre une sagesse qui a envahi cette église et qui a créé beaucoup de divisions. Et donc, dans ce livre de 1 Corinthiens, justement, il contraste la sagesse de ce monde avec la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui se résume ainsi. Car je n'ai jugé, c'est chapitre 2, verset 2, car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et là, c'est vraiment dans ce livre le point fort de la sagesse. Donc, si quelqu'un reçoit par le Saint-Esprit une parole de sagesse, on peut déduire que, quelque part, c'est lié à cette croix de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui est de central dans la foi chrétienne. Jésus-Christ est crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Quelque part, ça ne doit pas tomber loin de cela. Parce que voilà la sagesse de Dieu. D'autre part, cette parole de sagesse qui vient d'en haut, reliée à la croix, il y a toujours quelque chose de l'Évangile. Une sagesse qui est tout à fait hors norme dans ce monde. L'Évangile. Qui met les valeurs de ce monde vraiment sur sa tête, qui renverse tout. Une sagesse qui vient de Dieu. Mais c'est aussi, parfois, on peut remarquer ça avec Jésus, justement, la semaine avant sa crucifixion, lorsque, par exemple, on lui apporte une petite... et c'est lui qui demande la pièce. On lui demande, est-ce qu'il faut donc donner de l'argent à César ou pas? Et qu'est-ce que Jésus dit? Il avait une parole de sagesse qui a tout de suite calmé le jeu. En disant, rends donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est exactement aussi en cohérence avec l'Évangile. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Nous-mêmes. Parce que c'est Jésus qui est crucifié pour nos péchés. C'est lui qui s'est donné pour lui-même. Il y a quand même une sagesse qui vient de lui. Et une parole dite qui calme un conflit. Et une parole aussi qui apporte une perspective de l'Évangile de la croix qui résout vraiment une énigme. Oui, ça, c'est vraiment un immense besoin de nous. Et ça peut venir de nous, de n'importe qui parmi vous qui est animé par le Saint-Esprit au moment voulu. Deuxièmement, on peut parler aussi de la parole de connaissance. Et là, la connaissance, il faut se rappeler que, aussi en Corinthiens, Paul a dit... La connaissance gonfle, mais l'amour édifie. Donc, ce n'est pas une connaissance mondaine, érudite, dans le sens que j'ai reçu une belle connaissance secrète que moi je connais et toi tu ne connais pas. C'est jamais dans ce sens-là. C'est jamais orgueilleux comme connaissance. Mais, donc... toujours en harmonie avec Jésus-Christ lui-même, ça peut être au moins deux, trois choses. Ça peut être justement le Saint-Esprit qui révèle quelque chose à nous pour que justement on le dise à quelqu'un d'autre. Par exemple, Jésus, Jean chapitre 4, verset 16, devant la Samaritaine, la femme, donc, qui n'était pas mariée, mais elle avait d'autres maris, Jésus a dit, « Tu as dit vrai que tu n'as pas de mari. » Et puis, il dit toutes ces choses. Bon, comment est-ce qu'il a su? La réponse facile, c'est parce qu'il est Dieu. Oui. Oui, évidemment, il est Dieu. Mais c'est aussi une image d'une connaissance donnée par l'Esprit communiqué à une personne qui dévoile leur cœur. C'est donc quelque chose de révélatrice. Bon, c'est quelque chose aussi qui est très nécessaire pour l'Église. Parfois, on est dans des cas, des situations où les gens n'osent pas dire les choses ou peut-être face à des secrets ou face à des choses qui bloquent, parfois une parole de connaissance qui vient de l'Esprit est absolument ce qu'il faut, nécessaire même. Tout comme on peut parler d'Éphésiens 3, verset 19, où Paul prie pour que nous puissions connaître l'amour de Dieu qui dépasse tout. Combien elle est large, elle est grande, elle est immense. Une parole de connaissance aussi peut justement nous faire comprendre cet amour dans ce sens-là. C'est aussi des trésors cachés en Christ. Une parole qui éclaircit quelque chose comme une connaissance, ah oui, c'est comme ça, oui, je comprends maintenant. Une connaissance spirituelle apportée à la parole. Révélation. Troisièmement, il parle aussi de la foi pour faire des miracles. Et là, c'est bien de le contraster avec 1 Corinthiens 13, verset 2, par exemple, quand il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, il parle de la foi, donc qui peut bouger les montagnes, des choses qui sont puissantes. C'est pas la foi pour être sauvé, ça c'est autre chose. C'est aussi un don de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est comme ça que nous puissions même avoir une idée qui est Christ, et pour que nous puissions donner notre vie à lui. Donc ça, c'est oui, mais c'est autre chose. Là, il parle une foi pour faire des miracles. C'est comme un sens, conviction forte que le Seigneur veut faire quelque chose et qu'il vous équipe de le faire. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est une intervention divine dans la sphère des relations humaines. Donc, une intervention divine. Ça peut être... Et pour la plupart du temps, des miracles sont faits par des moyens tout à fait normaux. Parce que Dieu peut briser les lois de la science s'il veut, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, lui qui a mis toutes choses en place, gravité l'inertie, il a mis toutes ces lois de la science comme des piliers pour régir notre vie sur Terre, et on est content parce que ça permet justement que nous puissions vivre et grandir et tout comme il faut. Il n'est pas en train de changer tout ça, mais en tant que Dieu souverain, parfois, il peut faire des choses tout à fait en dehors de ce qui est normal. Ça peut être quelque chose de très grand, ça peut être quelque chose de très petit. Ce qui est important, c'est de reconnaître que c'est la main de Dieu. Quatrièmement, on peut parler des dons de guérison. Et là, ça ne se limite pas à ce que Dieu demande en Jacques 5, verset 14, lorsqu'il dit « Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour eux et le malade sera guéri. » C'est plus que cela. Notez bien comment c'est dit. Ce n'est pas un guérisseur. C'est un don ou des dons, littéralement, de guérison. C'est-à-dire que Dieu peut souverainement choisir de guérir quelqu'un d'une maladie. Il y a plein de choses documentées. Si jamais vous êtes privilégié de participer à cela, il faut absolument que ça soit documenté quand même, parce qu'on ne veut pas juste proférer des histoires qui ne sont pas vérifiables. Il faut être responsable aussi. Ça, c'est une chose. Et ça, ce n'est pas un manque de foi. Au contraire. C'est justement de cette même, à moins qu'on voulait accuser Jésus de manquer de foi lorsqu'il a guéri les gens et puis les a envoyés de se faire présenter devant le souverain sacrificateur. Donc, c'est lui qui nous a montré comment faire. Donc, guérison, oui, de maladie, mais guérison aussi émotionnelle. Guérison psychologique, oui. Guérison spirituelle. Il y a diverses guérisons là. Parce que l'homme est complexe et Dieu est le Dieu de tout l'homme. Et trop souvent, je pense qu'on limite Dieu, et je pense d'ailleurs, bon, s'il y en a quand même en rhume, oui, prenez un doliprane, mais priez Dieu de vous guérir. Si vous avez quelque chose de plus grave, hein, si vous pensez que vous avez COVID, allez vous faire tester et priez Dieu. Hein? Les deux vont de pair. Si vous avez un cancer, allez voir votre médecin et prier Dieu. Vous voyez, les deux choses doivent marcher ensemble. Et ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Et souvent, on avance cet argument-là, surtout dans le monde de la psychiatrie. C'est que, comment est-ce que, justement, l'Église peut faire confiance à des docteurs ou des médecins non-croyants? Si, et je vais emprunter un petit argument de Becky, que je trouve génial, si on veut absolument ne jamais utiliser une découverte scientifique qui a été faite par un non-chrétien, il faut que tout le monde arrête de rouler en Volkswagen, justement, parce que c'était créé pendant cette période nazie. Et donc, d'abord, on élimine tout ça. Ah, et puis, parlons des nazis. Combien de découvertes scientifiques avons-nous fait pendant tout ce temps? Est-ce qu'on va revenir en arrière et oublier tout cela, même si ça a été fait d'une manière tout à fait atroce et inhumaine? Évidemment pas. Si Dieu a permis que certaines choses existent par des moyens même les plus redoutables, mais qu'il a permis quand même par la suite de sauver des vies, est-ce que ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle la grâce commune, cette œuvre de Dieu dans le monde où il permet justement à même un athée de découvrir quelque chose pour le bénéfice de toute la terre? Et si Dieu a permis justement un scientifique de découvrir quelque chose pour que l'humanité puisse progresser, qui sommes-nous pour ne pas d'abord remercier le Seigneur et puis en profiter? Ceci dit, il y a des dons des guérisons qui sont tout à fait inexplicables. Ça arrive. Moi, j'en fais partie. Quand je me suis converti, j'étais dépendant des drogues assez dures et accablantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un moment où je l'ai senti, c'était très fort, c'était dans un instant, et j'étais délivré dans une seconde. Et je ne suis jamais revenu après. Comment ça? Dieu m'a fait ça, tout simplement. Gloire à lui. Alors, par contre, je ne prétends pas avoir le don de guérison. Qu'importe. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Très proche de cela, c'est un don de puissance. Quelque chose qui peut être fait, qui ne peut pas expliquer ni socialement, ni par le talent de la personne. Quelque chose qui est pour le bénéfice de l'Église, de l'humanité. Je pense, par exemple, à la mission de Paul. Comment ça se fait qu'un homme comme lui, à son époque, sans toute notre technologie, aurait pu faire tout ce qu'il a pu pendant un si peu de temps? Ou même tout ce qu'il a pu accomplir et écrire pendant les années qu'il était enfermé dans une prison? C'est une puissance qui vient d'en haut. Ce n'est pas de la bonne chance. C'est parce que Dieu a opéré ces choses pour que ça puisse toucher à ses fins. Un peu comme notre mouvement aussi, Calvary Chapel, qui a commencé par, voilà comment les choses étaient, un homme qui avait 50 ans, qui était vraiment en décalage avec le mouvement de la jeunesse de l'époque. Du coup, il se trouve à la tête d'un mouvement, d'un réveil de jeunesse. C'est inexplicable, si ce n'est par Dieu qui fait des choses. Ce n'est pas par sa propre puissance, c'est Dieu qui fait des choses. La prophétie, par exemple, ce n'est pas prédire les choses, la prophétie. Oui, ça peut être, oui. Mais dans la majorité du texte biblique, c'est la proclamation de Dieu. C'est, selon Apocalypse 19, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est, dans l'Ancien Testament, le rappel ferme de l'existence du Dieu vivant, surtout face à ceux qui l'ont oublié, la parole prophétique. La parole prophétique, attention encore, comme on a dit la semaine dernière, ce n'est pas des prophètes, ça c'est autre chose, hein? C'est-à-dire n'importe qui parmi vous peut recevoir une parole prophétique à un moment, et puis peut-être pas pendant des années. C'est Dieu qui décide. Ou bien, ça peut être répété à plusieurs reprises aussi. Mais c'est lui qui décide. Paul dit qu'il faut prier pour que ce don soit répandu. En fait, Paul dit en 1 Corinthiens 14, il veut que tout le monde prophétise. Pourquoi? Parce que la prophétie a une qualité qui peut toucher le cœur du non-croyant. Notamment, le rappel du Dieu vivant. C'est la parole prophétique, justement, qui peut... Bon, je vous donne un exemple dans l'histoire française. Hein. Je pense à Abbé Pierre, en 1948, lorsqu'il a fait cette déclaration à la radio, lors du plus sévère hiver. Et justement, il y avait un mouvement solidarité qui a pu venir en aide des plus démunis de cette époque. Une parole, donc, qui a vraiment mis le point sur l'injustice, qui a rappelé les gens de la réalité de Dieu vivant et de la nécessité de revenir à Dieu et faire ce qui est droit. C'est vraiment un contexte de l'Ancien Testament, mais c'est comme ça qu'on peut voir ces dons exercés face des non-chrétiens. Ou comme Paul a dit en 1 Corinthiens 14, si tout le monde prophétise dans l'Église et il vient justement en non-croyant, il va tomber à terre parce que son cœur sera dévoilé, il va reconnaître que Dieu est vraiment parmi vous. Donc il est préférable que tous les chrétiens et ce don. Prions pour ce don. Il est nécessaire pour notre monde, aussi bien pour s'encourager les uns les autres. Il y a discernement des esprits, ensuite. Le discernement des esprits, il y a deux manières de le voir. D'abord, et je pense que c'est complémentaire, imaginons que pendant la louange, il y a quelqu'un qui se lève et dit « Voilà, j'ai une parole du Seigneur. » Autrement dit, il a donc une prophétie. Il le dit. Alors, c'est maintenant à l'Église de juger, discerner. Est-ce que ça vient réellement de Dieu ou pas? Discernement des esprits. Absolument nécessaire. Deuxième exemple. C'est quelqu'un qui, comme Jésus a parlé aussi des loup dans les peaux de brebis, parle aussi parfois des faux enseignants, on parle aussi donc des gens qui cachent leur jeu. Il y avait un homme dans l'église, bon, juste pour vous donner une idée comment ça peut se faire, il y avait justement une situation très particulière avec une dame qui était vraiment dans quelque chose qui n'était pas très, très net. Et puis, cet homme m'a dit, m'a pris à part, et puis il m'a dit, écoute, il faut que tu vois ça et que tu ne sois pas dupe concernant cette situation-là. Et il faut savoir que cette dame a une sœur dans l'église. Je dis « Ok ». J'avoue que j'étais un peu incrédule. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est joué exactement comme il a dit, à mon grand chagrin. Et effectivement, étrangement, plus tard, il y avait une dame qui la défendait et Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, oui, mais elle est ma sœur. Bon, discernement des esprits, on a besoin de ça. C'est nécessaire. Ensuite, il y a le parler en langue. Alors, le parler en langue, c'est ce qui est de plus conflictuel dans l'Église. Je n'aurai pas le temps d'aller vraiment en profondeur et je ne pense pas que ça, c'est nécessaire non plus. Qu'est-ce que c'est? Le jour de Pentecôte, il y avait donc les disciples qui ont parlé et les gens, ils ont entendu dans leur langue. Je ne pense pas que ça soit la même chose dont Paul parle ici. Parce que la Bible ne précise pas ce qu'il parle, mais ce que la Bible précise, c'est qu'eux, ils ont entendu dans leur propre langue. Il faut lire attentivement les chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens et on a plutôt l'idée que c'est un langage de prière. C'est des louanges à Dieu, il dit. Il dit, vous faites des belles louanges à Dieu. Le parler en langue, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un don, ce qui est différent des autres dans le sens que c'est fait pour l'individu dans sa vie de prière avec le Seigneur. Quand c'est fait au mieux, c'est vraiment en privé. Hein? Parce que si c'est fait quelque chose qui est fait devant l'Église, il faut qu'il y ait une interprétation. Oui, si le Seigneur vous donne une langue à dire, il faut prier qu'il y ait une interprétation. Sinon, c'est utiliser mal le don. Bon, tout comme si quelqu'un dit une parole prophétique, par exemple, il pense avoir une parole du Seigneur et peut-être on juge et on dit, bah non, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas vraiment du Seigneur. Du genre, je sais qui sera ma femme. Un célibataire, un homme. Et donc, voilà, c'est un tel. Et puis, bon, on sait que, ouais, bon, probablement pas. Est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Pas plus que si il avait dit les choses vraies, que ça faisait de lui un prophète. Non. Ça veut dire tout simplement, le pauvre homme s'est trompé. Ce qui peut arriver. Hein. Et voilà pourquoi il faut juger. Hein. Voilà pourquoi il faut discerner. Parce que si on se trompe, qui parmi nous ne se trompe jamais? Non, il faut faire attention, il faut être vigilant. Mais justement, il faut, tant qu'on puisse le faire, faire tout selon la Bible, mais il ne faut pas aller... Il y avait une seule personne qui est crucifiée pour nous tous, et c'est Jésus-Christ, et ce n'est pas la peine de crucifier les autres, n'est-ce pas? Donc, ça c'est très important par rapport à tout cela. Le parler en langue, Paul dit, je veux que vous tous parlez en langue. Pourquoi? Parce que pour moi qui a aussi ce don, il y a quelque chose qui est très, très fort dans la vie de prière. C'est une louange, tout simplement. C'est une louange, c'est une prière, c'est intime, c'est fort. C'est bénéfique. Pourtant, et là, je suis totalement honnête avec vous, je n'ai jamais eu l'impulse, l'esprit qui me dit voilà, j'ai une langue pour l'assemblée. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, même ce matin, en priant, j'ai eu une langue. Hein. Donc, entre moi et Dieu. Donc, il est important de garder ces choses en tête. Parce que le plus important, c'est d'entrer dans cette danse, en conclusion, dont nous avons parlé, cette danse à l'image de la Trinité, le Père qui opère tout en tous, mais avec une diversité des esprits, des dons, excuse-moi, l'esprit, un seul esprit qui distribue une diversité de dons, un seul Seigneur Jésus-Christ qui fait dans une diversité de services. L'Église doit justement ressembler à cette danse-là. Et donc, il est important pour nous de se rappeler que tout est fait, c'est un don, c'est sa grâce, que Christ, dans sa riche générosité, il a fait quelque chose, il nous a donné des dons manifestés par le Saint-Esprit pour sa gloire. Quelle doit être notre réponse? D'abord, remercions-le. S'il le fait, c'est parce que nous avons besoin. Si vous ne savez pas si vous avez un don, sachez-le, vous avez un don, au moins un, sinon plusieurs. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu pour quelque chose que vous ne possédez pas encore? Oui. Dans ce chapitre, ces deux chapitres, Paul incite les gens à prier pour les dons excellents, tels que la prophétie. Priez pour cela. Recherchez-la. Et puis, si le Seigneur vous donne justement cette petite, il vous aiguille justement à faire quelque chose, dire quelque chose, priez. Priez que ça soit dans l'esprit, pour sa gloire et dans l'amour.